Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Alors c'est un Gulliver un petit peu spécial que je vous convie aujourd'hui. Il sera consacré à Vladimir Jankélévitch. Alors pourquoi Jankélévitch ? Il se trouve qu'un théâtre, le Carré Rondelet, a joué la semaine dernière et le jouera encore en fin de mois, une création à partir des textes de Vladimir Jankélévitch. L'adaptation, les textes, la mise en scène et l'interprétation est due à Avner Camus-Pérez avec Géraldine Masson au piano et à l'interprétation. Après une première série donc de représentations, à nouveau, deux représentations auront lieu le samedi 28 et le dimanche 29 janvier. C'est l'occasion pour moi de vous parler de Vladimir Jankélévitch. Alors, c'est un philosophe que l'on connaît moins qu'autrefois, et il a eu son heure de gloire, notamment après les années 68. Et c'est un philosophe très étrange et très particulier. Il est né dans une famille d'intellectuels juifs russes qui avaient fui les pogroms antisémites dans leur pays. Son père, médecin, Samuel, fut l'un des premiers traducteurs de Sigmund Freud en France et traduisit également des œuvres de Hegel, Schelling et publia plusieurs articles dans des revues de philosophie. Vladimir entre en 1922 à l'École normale supérieure où il étudie la philosophie. Et en 1923, il rencontre le grand philosophe Henri Bergson, avec qui il entretint une correspondance. Reçu premier à l'agrégation en 1926, Jankélévitch part pour l'Institut français de Prague l'année suivante et il enseigne jusqu'en 1932. Il rédige une thèse sur Schelling. De retour en France, il enseigne au lycée Malherbe de Caen, puis au lycée du Parc à Lyon, avant d'intégrer l'université de Toulouse en 1936, puis celle de Lille quelques années plus tard. Dès le mois de janvier 1940, Jankélévitch entre dans la résistance. Alors d'abord dans la clandestinité à Toulouse, où il passera les années de guerre, sous plusieurs identités. Il est révoqué le 18 juillet 1940, comme n'ayant pas la nationalité française à titre originaire. C'est le fameux statut particulier des Juifs durant l'occupation. Et il est destitué, il perd donc la nationalité française, ce qui n'est pas sans rappeler des événements récents. Il est donc destitué de la nationalité française en décembre 1940. C'est alors qu'il s'engage dans la résistance et dit « Les nazis ne sont des hommes que par hasard ». Durant l'occupation, Vladimir Jankélévitch réunit à faire revenir toute sa famille à Toulouse, où Jean Cassou, un de ses amis, devient commissaire de la République. Durant ce séjour à Toulouse et durant la clandestinité, il va dire contre Jean-Paul Sartre que c'était là le vrai moment de s'engager. Il s'agit moins de s'engager en littérature que de s'engager dans la réalité. Et il dit également qu'alors, faire de la morale, ce n'était pas écrire des cahiers pour une morale ou rédiger un traité des vertus, comme il le fera plus tard, mais distribuer des tracts en pleine rue au péril de sa vie. Pour lui, la morale consiste à s'engager, non à effectuer une tournée de conférences au cours desquelles on s'engage à s'engager. Il retrouve en octobre 1947 son poste de professeur à la faculté de Lille. De 1951 à 1979, il est titulaire de la chaire de philosophie morale à la Sorbonne. Il sera fait docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles en 1965. À la Sorbonne, en mai 1968, alors que rien dans sa philosophie ne l'amène à considérer les mouvements étudiants, il va épouser corps et âme selon ses propres termes, l'insurrection étudiante. En 1979, lors des États généraux de la philosophie qui se sont tenus à la Sorbonne, il a puissamment contribué avec Jacques Derrida à sauver l'enseignement de la philosophie en classe terminale en France. Il décède donc le 13 novembre 2007. Il est inhumé au nouveau cimetière de Châtenay-Malabry. Alors en quoi Vladimir Jankélévitch est exemplaire aujourd'hui ? Non sans évoquer une forme de parenté dans le comportement avec un auteur, un poète comme René Char. Voilà quelqu'un qui n'a cessé de réfléchir à la vie et qui n'a cessé de s'engager, mais dans la vie. C'est un homme dont la philosophie est très très spécifique. Elle repose sur trois pôles, trois pieds en quelque sorte. La métaphysique de l'instant, qu'il parle de la mort, de la liberté, de l'intention, de l'intuition, de l'acte et finalement de l'amour. Il tente d'encercler l'instant au plus près et de tous les côtés. Ensuite, la morale et l'éthique de l'autre. Notamment, il réfléchira beaucoup sur l'amour. Enfin, la réflexion sur l'esthétique. On peut trouver d'ailleurs une introduction à sa pensée dans le livre d'entretien, quelque part dans l'inachevé, où Béatrice Berlowitz dialogue avec le philosophe sur l'ensemble de ses thèmes, et notamment les thèmes d'esthétique. Alors je vous propose d'écouter un extrait, une archive, tirée de l'émission Apostrophe, où Bernard Pivot recevait le philosophe, justement sur la question « À quoi servent les philosophes ?» Et voilà ce que répondait Vladimir Jankélévitch.
Quand on dit « À quoi servent les philosophes ?», on s'attend à ce qu'on dise « À rien ». Et j'ai envie de dire aussi, avec cet objecteur virtuel, rassurez-vous, ça ne sert à rien. Si c'est pour servir à quelque chose, ça en effet, ça ne sert à rien. Vous me permettez d'abord de vous faire remarquer que je n'étais pas le seul qui puisse répondre à cette question. Il y a en France plusieurs centaines de philosophes, et même davantage encore, qui auraient fait aussi bien l'affaire, qui auraient mieux répondu que moi, dont un grand nombre, les plus jeunes, sont au contact direct des jeunes philosophes en province, et vraiment auraient mieux répondu que moi. Il n'y avait pas de raison de faire appel à moi.
Ah oui, mais ça, c'est moi qui dirige, là. Alors, j'ai fait appel à vous, parce que ça, il faut dire que je suis le patron. Alors, j'ai fait appel à vous, parce que j'ai pensé que vous alliez m'apporter une question.
Je regrette pour vos auditeurs. Alors, mais enfin, je veux bien répondre quand même.
Oui, alors à quoi ça sert, la philosophie et les philosophes ?
Eh bien, je répète, si c'est pour servir à quelque chose, vraiment, ça ne sert à rien. Je pensais justement à ces... Je reviens encore un peu en arrière, à ces philosophes du groupe du Greffe, que vous connaissez, qui sont mes amis, et dont je regrette qu'ils ne s'expriment pas eux-mêmes, ils l'auraient fait beaucoup mieux que moi, ils connaissent les questions techniques. Donc je ne pense pas qu'il faut poser ce problème-là, de savoir à quoi ça sert. Parce que la philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir ?
À penser.
Pardon ?
À penser.
Ça ne sert pas plus à penser que les mathématiques, que l'algèbre, par exemple, n'est-ce pas ? Et puis, servir est un mot déplaisant, qui n'est pas philosophique lui-même. Donc, vraiment, ça ne sert à rien. Si on commence à faire de la philosophie dans l'idée que ça sert à quelque chose, on fait le jeu de ceux, il y a des livres comme ça que j'ai entrevus ici, sur ces tables, qui prétendent, qui demandent pourquoi les philosophes, pourquoi pas autre chose, n'est-ce pas ? Donc, le philosophe, évidemment, ne sert à rien. Et je ne crois pas que c'est un problème qu'il faut poser ainsi.
Alors, vous le posez comment ?
Eh bien, attendez, si vous permettez. Oui. D'un côté, j'ai plus envie de répondre à ces choses-là, parce que j'ai pas envie de faire le jeu de ceux qui la dénigrent, n'est-ce pas ? Et d'autre part, parce que finalement, j'ai hâte de faire de la philosophie. La philosophie, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas ? C'est pas fait pour qu'on en parle, en réalité. C'est comme la musique. La musique, c'est fait pour qu'on en joue, pour qu'on en entende, mais pas pour qu'on en parle, mais pas pour qu'on pérore. Alors ceux qui pérorent sur la philosophie n'ont pas envie d'en faire et se croient tenus alors quand elle est attaquée de la défendre. Donc je pense qu'il faut en faire et passer au problème directement. C'est ce que j'ai envie de faire d'ailleurs, de traiter un problème de philosophie et non point de la défendre contre des adversaires, il faut bien les appeler ainsi, qui sont pas disposés à l'écouter. C'est pas la peine de parler à des sourds, je les convaincrai pas, donc faisons de la philosophie sans nous occuper d'eux. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, Excusez, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est les habitudes de l'amphithéâtre, vous savez, qui ne me quittent pas. Deuxièmement, je me crois tenu de répondre quand même. Je suis tenté de ne pas répondre. Je suis tenté
mais
de
je
hausser,
vais quand même répondre.
Je suis tenté de hausser les épaules, mais hausser les épaules n'est pas un geste philosophique, n'est-ce pas? Et puis, je suis tenu quand même de répondre, parce qu'on ne se débarrasse pas d'un problème, quand on est professeur de philosophie, en disant « je vous méprise, c'est pas la peine de vous répondre ». Le philosophe doit répondre à tout, même à ceux qui disent « ce que vous faites, ça n'est rien du tout ». Vous devriez revenir à la production, à la base, etc., et aller cultiver les jardins, etc.
Donc, pour Vladimir Jankélévitch, eh bien, la philosophie, effectivement, ne sert à rien, hormis d'en faire. Eh bien, précisément, nous allons là aussi entendre Vladimir Jankélévitch faire de la philosophie. Il se trouve que dans une archive sonore que l'on doit à l'INA, l'intégralité d'un de ses séminaires sur l'immédiat a été enregistré et donc est disponible. Je vous propose d'écouter dans le début de ce séminaire sa réflexion sur la précarité de l'homme, et sur la mort et sur ce qu'il s'ensuit vis-à-vis de sa philosophie.
Depuis qu'il y a les hommes, depuis des milliards d'années, eh bien, les hommes meurent. Les hommes meurent toujours dans le même sens et personne ne sait rien. N'est-il rien de plus irritant, n'est-ce pas? Les hommes meurent à côté de vous, dans la rue, partout, par milliers, mais toujours dans le même sens, et pas un pour revenir, pas un pour nous dire quelque chose. Et même ceux qui paraissent revenir n'y sont jamais allés. Ils ne savent rien. Je dirais qu'en un sens, l'intuition est une petite solution, enfin, pour nous amuser en attendant, au problème de la mort. Cette petite mort est comme une petite solution, parce que là, bien que justement il ne s'agisse pas d'être et de non-être, on peut savoir quelque chose. C'est une petite mort qui est suivie d'une résurrection, n'est-ce pas, comme une conscience qui s'abîme dans l'être de l'autre et qui ensuite se rallume, après s'être éteinte, se rallume aussitôt. En sorte qu'il y a comme des clignotements. Je dirais volontiers que la vie de la pensée ressemble à ces clignotements. Ces clignotements de la conscience apparaissante et disparaissante et qui forment l'intellection, n'est-ce pas, par opposition à l'intuition. Nous appellerions donc intuition l'acte privilégié, la fracture elle-même dans ce qu'elle a de mystérieux, et intellection, cette espèce de, qui est l'acte de comprendre, cette vie quotidienne de la pensée, cette quotidienneté de la pensée par laquelle nous allons et venons, traversons la frontière, faisons un pas en dehors de la frontière pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté, si bien que l'existence de l'autre, avec laquelle il s'agit de coïncider, n'est pas absolument outre, n'est pas un outre-monde. C'est qu'en effet, il ne s'agit pas de l'outre-monde par rapport à tout le monde, de l'au-delà absolu qui est au-delà de tout, au-delà de tout ici-bas, au-delà de tous les hommes, mais il s'agit de cet humble, modeste ou au-delà qu'est l'autre, qui est à mes côtés, par exemple, quand il s'agit de comprendre une personne, de comprendre quelqu'un. Quand il s'agit de l'autre, qui est la doctrine étrangère, la pensée de l'autre, lorsqu'il s'agit de comprendre une grande doctrine du passé, par exemple. Donc, il ne s'agit pas d'un au-delà de tout ici-bas, mais il s'agit d'un au-delà limité, qui, par rapport auquel je suis moi-même un au-delà. Donc, d'un au-delà relatif dans lequel le caractère ultérieur, l'ultériorité, qui explique seule l'imperméabilité, l'ultériorité n'est pas absolue, mais elle est elle-même relative, et donc elle est objet de connaissance. En réalité, l'homme de l'intervalle, des intuitions, l'homme qui discourt et qui raisonne, et l'homme qui assemble des moyens termes dans la médiation, est toujours constamment à moitié mort. Il est lui-même à demi-mort, soit qu'il soit par exemple pur et existant, pur étant et inconscient. Un homme qui est sans connaître est à moitié mort. Il vit par ses organes, par ses viscères, par son cœur qui bat, par sa respiration qui s'accomplit, mais par l'esprit, il est mort. Et inversement, un homme qui connaît et qui sait sans être, en oubliant, en ne coïncidant pas avec l'être de l'autre, et étant mort à lui-même, en oubliant la vie de ses propres organes, cet être à son tour est à moitié mort. Il est donc mort parce que conscient. C'est donc le passage d'une demi-mort à une autre demi-mort qui est la vie véritable.
La vie véritable, c'est le passage d'une mort à une autre, d'une petite mort à une autre petite mort, de la petite mort de l'homme existant mais non connaissant, à l'autre petite mort, complémentaire, celle de l'homme connaissant mais inexistant, inexistant pour soi-même et inexistant également en l'autre, avec lequel il ne coïncide pas et qu'il ne peut que connaître du dehors. C'est donc le passage de l'un à l'autre, le passage d'une mort à une mort, lequel s'accomplit dans l'instant, qui est la vie véritable. Et peut-être que nous ne sommes des vivants que par cet instant lui-même. Nous ne vivons véritablement que parce que nous passons perpétuellement d'une mort à une autre, d'une petite mort à une autre, car c'est l'instant seul qui est la vie révélatrice. C'est l'instant seul qui est la vie du savoir, qui est le savoir vivant, en réalité, en accolant ces deux mots qui jurent de se trouver ensemble et que, accolé, un grand philosophe russe disparu, Simon Frank, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Le savoir vivant », en russe « Jivoye Znanie », le savoir vivant dans lequel il étudiait, à côté de doctrines du passé, des poètes, comme le grand poète Tchouchev, n'est-ce pas, puisqu'il considérait la révélation des poètes, le message des poètes, comme la vie, le savoir lui-même, le savoir véritable. Eh bien, ce savoir vivant, révélateur du mystère, est donc dans la répétition de l'acte d'intuition lui-même, qui, par intermittence, nous redonne une expérience vive de la vérité et nous empêche d'être des cadavres. La seule différence entre l'homme et le cadavre vient de ce passage d'un état cadavérique à un autre, qui est la temporalité du temps, qui est l'instant qui propulse le temps et l'intuition qui propulse la pensée et qui est cette fracture dont nous parlions.
Thank you.
Voilà donc quelle était la philosophie en action de notre auteur d'aujourd'hui, Vladimir Jankélévitch. Alors pour terminer, je voudrais raconter une petite anecdote le concernant. Durant 10, 20, 30 ans après Auschwitz, Vladimir Jankélévitch se réveillait encore la nuit, la conscience obsédée par le devoir de témoigner, de faire que l'oubli soit interdit, que perdure le courage de résister à la barbarie, lui dont la famille avait presque totalement disparu dans les camps. Voilà ce qu'il disait. « La guerre a coupé ma vie en deux. Il ne me reste rien de mon existence d'avant 1940. Pas un livre, pas une photo, pas une lettre. Quelquefois, de plus en plus rarement, je reçois un témoignage d'outre-tombe, quelqu'un qui m'a connu dans mon enfance. » Cette vie coupée en deux avait déclenché chez lui une réaction assez particulière, puisque, et c'est lors de cette émission que l'on évoquait en début d'émission, apostrophe, il avait déclenché un véritable mouvement d'interrogation parce que, à propos de l'Allemagne, il disait que dans la mesure où il s'était passé ce qu'il s'était passé, il ne voulait plus jamais entendre parler de l'Allemagne. Il n'irait plus jamais, quand on sait que l'Allemagne est quand même le pays de la philosophie. Donc il n'irait plus jamais en Allemagne, ne citerait plus jamais un auteur allemand, oublierait la langue allemande qu'il parlait fort bien, ne voudrait plus serrer la main d'un Allemand, fût-il né après la guerre. Cette attitude radicale lui valut incompréhension et inimitié. Elle tenait à la question du pardon. Et au cours d'une longue réflexion sur le pardon, il en était arrivé à ceci que on ne pardonne que celui qui le demande. On ne pardonne qu'à celui qui en fait, en quelque sorte, la prière. Et, disait-il, personne, ni l'État allemand, ni un quelconque mouvement de citoyens, ne s'était excusé de ce qui s'était passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, toute la philosophie de l'amour conduisait Jankélévitch à pardonner l'impardonnable. Eh bien, il n'a pas pu. Il ne s'en justifiait pas. Il ne voulait pas qu'on le suive. Il ne faisait pas école, ni qu'on donne une quelconque exemplarité à son attitude. Simplement, il ne pouvait pas. Et il disait d'ailleurs, il avait cette expression, « c'est ma misère ». Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en juin 1980, après cette émission, Vladimir Jankélévitch reçoit d'un jeune Allemand, Weyard Ravling, je ne garantis pas la prononciation, une demande de pardon. Et Jankélévitch lui répond « Je suis ému par votre lettre ». J'ai attendu cette lettre pendant 35 ans. Je veux dire une lettre dans laquelle l'abomination est pleinement assumée et par quelqu'un qui n'y est pour rien. Quand vous viendrez à Paris, sonnez chez moi, quai aux fleurs, près de Notre-Dame, vous serez reçu avec émotion comme le messager du printemps. Alors cette anecdote est extraite d'un livre qui a été publié en 1983, quelques années plus tard, mais qui regroupe des textes entre 1943 et 1983, des textes de circonstances qui s'intitulent « L'esprit de résistance » et donc signé Vladimir Jankélévitch. C'est dans ces textes-là donc, que l'on a publié chez Albin Michel que l'on trouve notamment cette anecdote. Ce qui montre bien l'esprit parfaitement clairvoyant de Jankélévitch, philosophe qui nous manque cruellement aujourd'hui. Alors je ne saurais vous dire quel livre lire de cet auteur, tant nombreux sont ses textes plus intéressants les uns que les autres. Sachez qu'il a beaucoup écrit sur la musique, et le spectacle d'ailleurs au Carré Rondelet fait beaucoup appel à ses textes musicaux. Il a beaucoup écrit sur la métaphysique, le je ne sais quoi, le presque rien, le pur et l'impur, la mauvaise conscience, la mort, les vertus, beaucoup de choses, mais il reste que pour ceux qui veulent s'approcher au plus près de sa pensée, eh bien, Il faut aller voir peut-être ce spectacle pour, en guise d'introduction, et puis lire ce livre dont j'ai déjà parlé, quelque part dans l'inachevé, qu'il a, où il répond à des questions de Béatrice Horowitz, et qui est publié chez Gallimard. Ainsi s'achève ce numéro très spécial consacré à Vladimir Jankélévitch. À la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.